L'ambiance est bonne et le café est bon.
Ah ça c'est vrai, on est très bien reçu.
Bienvenue nouveaux compagnons.
De la musique, de documentaire, etc.
20 minutes écoute notre émission.
Hommage spécial dédicace.
Bienvenue. Malgré le confinement, notre association a continué à travailler d'arrache-pied pour non seulement podcaster tous les jours sur MixLR, mais également produire plus ou moins ses rubriques habituelles pour l'émission de mai 2020. Au sommaire, nous commencerons par les témoignages de nos adhérents dans la rubrique Au fil des confins, épisode 1. Puis nous continuerons avec nos classiques Jean-Pi le bébé singe de Rodolphe, épisode 11, et Politiquesque d'Alban, épisode 2. Ensuite, Clarisse nous a fait un dossier sur Clint Eastwood que nous suivrons par Piano d'Olivier Serra. Avant de passer à la rubrique de Pierre, le vivre en le disant, parlant avec Caroline. Ensuite, Clément, uniquement sur la version non libre de droit, nous présentera le groupe de country Camblar. Il y aura alors l'épisode 4, rubrique de l'individuel au collectif de Philippe Charc. Puis Capello qui nous fait du synthé avec les mots de feu J.B. Yeman, paix à son âme. Nous finirons par un témoignage de quelqu'un d'interviewé par Vincent Galzin et le classique épisode de Néophile au Moué. Ici le 38e. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Au fil des confins, quand le téléphone portable devient micro, témoignage de confiné, une production micro-sillon.
De quelle manière le monde extérieur vous manque? Comment est-ce que vous le remarquez?
Le monde extérieur est censé être l'image de nos créations passées et présentes. Nourriture, boissons, peintures, sculptures, films, etc. Toutes sortes de choses qui apparaissent par l'union du contenu de notre cerveau et de notre corps. Sans la communication avec autrui, nous ne pouvons rien créer. Nous avons besoin de l'apport culturel de nos ancêtres, amis, voisins, enseignants, etc. Sans le soutien sentimental d'autrui, nous ne pouvons pas vivre. Dans ces jours de confinement apparaissent des outils servant à pouvoir éventuellement se contacter. Tous les humains sur cette terre ne possèdent pas ces outils si salvateurs pour quelques-uns d'entre nous. En fait, un portable, un ordinateur, sont-ils capables de faire naviguer dans l'espace présent entre deux visages s'exprimant, une chaleur humaine, des sentiments d'amitié et ou d'amour. N'aurions-nous pas besoin de renaître, redevenant les fameux créateurs de nos relations duelles et de groupe? Rêvons de redevenir les porteurs des chaleurs qu'aucun ordi ne pourra jamais envoyer, celles de notre corps, de notre esprit et de notre âme.
Oui, bonjour. Voilà, ça fait 22 jours que nous sommes confinés. Et je suis passé par des états, des sensations, des sentiments un peu différents. De la colère au début, un sentiment de dépression assez vite, j'avais envie de rien, je tournais un peu en rond dans mon bocal. Et puis là, depuis quelques jours, je commence à me sentir un peu mieux et un peu résigné. Je me dis que ça risque de durer encore longtemps. Voilà, alors qu'est-ce qui me manque le plus? C'est pas trop l'extérieur physique, géographique, qui me manque beaucoup, même si j'aimerais bien reprendre notamment les randonnées collectives que je fais avec Actif Ipsy, ou me balader en ville. Ça me manque aussi, parce que je reste confiné dans mon quartier, bien sûr. Ce qui me manque, ce sont les interactions sociales. Voilà. WhatsApp, c'est très bien, et je remercie beaucoup tous ceux qui participe à l'animation de cette plateforme, mais ça remplace pas un vrai échange humain, une conversation, une proximité, c'est pas pareil. Depuis quelques mois, je fais partie d'une compagnie de théâtre, un amateur bien sûr. Je suis impliqué dans plusieurs projets. Et je n'ai pas vu venir ce confinement, même si on parlait beaucoup du Covid-19. Et rapidement, tout à coup, chacun a été sommé de revenir dans ses pénates et plus rien, silence radio. Je ne connais pas trop bien les gens, donc j'ai pas beaucoup de numéros de téléphone. J'ai pas vraiment beaucoup de nouvelles des gens avec qui je travaillais. Alors voilà, j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. On commence à parler de déconfinement, mais apparemment ce sera en plusieurs fois et pas pour tout le monde. Et moi, ce que j'espère, c'est retrouver mes copains, mes amis, voilà. Et comme dans les aventures d'Astérix, j'attends le festin gaulois de la dernière page. On va bâillonner le barde et on fera ripaille, ventre Dieu. Ripaille!
Alors, il y a plein de choses du monde extérieur qui me manquent, mais par contre, il y a peu de choses dans lesquelles je le remarque, mais il y a des trucs très très précis que j'ai remarqué là, et je pense que c'est dû à l'arrêt de mes déplacements en vélo. J'ai complètement arrêté de me déplacer en vélo, alors que j'en fais tous les jours et beaucoup. Et à cause de ça, et ben, figurez-vous que j'ai extrêmement mal au dos. Voilà, j'ai extrêmement mal au dos, je vais faire les courses, et juste de porter les courses, j'ai un mal de dos terrible, quoi. Alors, presque à des moments, je me demandais si j'avais pas le coronavirus, mais rassurez-vous, je n'ai pas le coronavirus. Aussi, je lui ai remarqué que le vélo me manquait, parce que je me regardais dans la glace, comme ça, et puis je remarquais que j'étais très blanc. Voilà, j'étais très blanc, alors je me suis dit, bon bah, c'est parce que je sors plus, de toute façon, je fais plus de vélo, alors je suis très blanc. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, je vais bronzer, voilà, je me mets à bronzer, et évidemment, j'étais beaucoup trop blanc, et j'ai chopé un énorme coup de soleil le week-end dernier. Voilà. C'est comme ça que je remarque. Mal de dos, coup de soleil, paf, pas de vélo. Voilà, c'est terrible, c'est terrible. Le vélo me manque beaucoup, j'espère vite le retrouver. Voilà. Après, il faut voir le bon côté des choses. C'est vrai que j'étais obligé de me mettre au sport. Et ça, c'est chouette. Alors peut-être qu'au déconfinement, je sortirai avec la peau brûlée, la peau pelée, je ne sais quelle maladie de la peau, mais au moins, je serai un petit peu plus musclé grâce à mon gainage et mes pompes journalières.
Bonjour à tous et à toutes. J'espère que ça peut aller malgré cette satanée confinement et gros connard virus, coronarien, tout comme on peut l'appeler. Voilà, je commence à en avoir marre vraiment de cette situation. Là, j'avais l'espoir que on puisse faire au moins le J'aime le canal fin juin. Voilà, qui a été déjà reporté pour mai. Et cet espoir a l'air d'être tombé à l'eau, voilà, cette belle lueur d'opportunité de faire un événement quand on sera déconfiné. Donc voilà, je ne suis pas quelqu'un qui ait généralement des pensées morbides, suicidaires, mais voilà, parce que je tiens à la vie, mais ça me désole. Voilà, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire, j'en peux plus à force. Voilà. Au revoir.
Bon, et ben, étant un câlin dépressif, en horrible manque de contact tactile, je n'ai plus aucune motivation à faire quoi que ce soit. Je n'avance plus du tout dans mes projets personnels depuis que je ne reçois plus de bisous ni de caresses. Ça accentue aussi mes problèmes de sommeil. Heureusement que des trucs comme des vidéos ASMR de Skitty Cat me permettent de dormir plus d'un jour sur deux. Je n'ai également plus le contexte de micro-sillon pour faire de la radio. Lundi dernier, je n'ai pas pensé à faire la à moindre seconde à politiquesque, alors qu'il faut que j'en fasse. La chorale est aussi difficile car il me faut de la motivation que je n'ai pas pour m'entraîner. Et le Qigong est aussi passé à la trappe à cause de la fatigue. Et puis c'était censé être le truc à ajouter pour mon émission. Nyororon.
En fait, ce qui manque vraiment, c'est de pouvoir équilibrer le plus et le moins, comme des polarités en fait. Enfin, l'intérieur, ce serait un moins ou un plus, et puis l'extérieur, ce serait un plus ou un moins. Et en fait, en restant tout le temps à l'intérieur, ou en tout cas très souvent, trop souvent, et ben du coup, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'inversait, enfin, comme si ça grossissait, je sais pas, comme si on pouvait moins prendre de recul dans sa propre tête sur des problèmes qu'on a ou quoi. Et d'habitude, du coup, ben, on sort faire plein de choses, on voit des gens, on travaille ou pas, en tout cas, on est occupé à d'autres trucs, et du coup, ça vient un peu dissoudre certaines choses, et là, ça se dissout pas, et donc ça grossit ou ça reste dans la tête, et on n'a pas moyen de faire trop évacuer toutes ces choses, en fait. Voilà, j'ai l'impression que c'est comme un équilibre qui n'est plus là. Et voilà. Bon, j'aurais voulu dire autre chose, d'autres choses, mais c'est comme ça que ça m'est venu, alors voilà. Et ben, bonne nuit, à bientôt. Au fil des confins.
Écrire, flâner, découvrir, parler, se refléter, échanger, micro-sillon sur le web.
Chers amis, bienvenue dans l'histoire de Jean-Pi et le bébé singe, une histoire racontée en 25 épisodes par votre ami Rodolphe Orville, d'après un texte de Claude Moirand, paru en 1963 aux éditions Hachette. Cette histoire, entièrement enregistrée sur bande magnétique, a été réalisée avec une musique sur pick-up stéréo tourne-disque. Petit détail, à l'écoute, si vous entendez un récurrent, c'est qu'il s'agit bien d'une fabrication artisanale. C'est le raccord de bande cassette. Réalisé en 1985 et remasterisé en 2018, de 63 à 2019, 56 ans plus tard, l'histoire est toujours là. Résumé général. Comment Jean-Pi, ayant récupéré par hasard un petit chimpanzé, est appelé à le faire adopter, non sans mal, par les habitants du pays des enfants. Aujourd'hui, épisode numéro 11, nouvelles alarmes. Résumé de l'épisode précédent, pas de banane chez Lisette. Jean-Pi décide alors de rameuter Minouche.
Ses yeux font le tour du grenier. Rien ne bouge. Alors ? Alors, Jean-Pi lève les yeux en entendant un oiseau gazouiller sur le toit. Le Vestas est grand ouvert. Pour explorer discrètement les environs. Jean-Pi de bonne heure est déjà monté sur son toit pour voir si Babylas n'y serait pas resté. Mais il n'a rien trouvé. Le petit chimpanzé a déjà filé par les maisons voisines. Où peut-il être maintenant ? Quelle nouvelle bêtise va-t-il encore faire ? Cherche, cherche, dit Jean-Pi à Capucine. Mais surtout, ne nous faisons pas remarquer. Capucine, humelaine, flaire, à droite, à gauche. Nos amis contournent la maison, passent à travers les champs, par derrière, regardent dans les arbres, mais rien. Rien. Bientôt, Jean-Pi renonce. Il retourne vers la ville et les maisons.
C'était Jean-Pi et le bébé singe, raconté par votre ami Rodolphe Orville, d'après un texte de Claude Moirand. Chers auditeurs, pour la suite, rendez-vous le mois prochain, même heure, même fréquence. En attendant, gardez votre âme juvénile. À bientôt!
Je vais la refaire, Jean-Paul.
Si !
Ah, ça marche bien.
Si vous n'êtes pas fou, folle, vous êtes foutu, quoi. Hein ? Parce que vous n'aurez aucun accès à vous-même, quoi. Hein ?
Retrouvez chaque mois l'émission de radio
Micro-Sillon.
Mais qu'est-ce que c'est que la politique ?
C'est vrai, ça. Qu'est-ce que c'est que la politique ?
Qu'est-ce que
Épisode Zo. Fenêtre sur Extrême.
Y aurait-il une catastrophe ? On est en pleine explication sur la politique.
C'est intéressant, mais les extrêmes, d'où viennent-ils ?
Ah ça, tu vois, c'est les gens qui veulent aller trop vite dans la direction. Mais aller trop vite permet de libérer l'énergie des peuples à nouveau souverain. Une fois, mais ces partis ont aussi tendance à prendre le pouvoir par la force et par le charisme.
Par exemple, les nazis ont assassiné toute l'assemblée et ont forcé les gens à obéir à leur guide suprême. Mais beaucoup de gens étaient si énervés, et c'est ça qu'Hitler a utilisé, qu'ils étaient heureux de lui obéir et d'avoir quelqu'un sur qui se taper.
Ah, d'où le FN, dont on accentue la haine.
La haine est une constante puissante dans le taux des maltraitances systémiques.
Donc ces mouvements utilisent ma haine de la politique pour amener les gens comme moi à taper sur des gens qui n'ont rien fait de mal.
Eh oui, on appelle ça de bien des noms. Le populisme devenant le fascisme. J'aime bien ce mot, tu vois. Il vient du faisceau UFO. C'est un mouvement qui ratiboise, qui découpe ce qui dépasse, uniformisé une fois.
Pourquoi ces mouvements existent-ils s'ils n'ont aucune chance de passer car personne n'a oublié le nazisme ?
Parce que la colère fait oublier.
Et aussi parce que la politique, c'est très pernicieux et progressif. Vous savez, la fenêtre d'Overton ?
Ah oui, la fenêtre d'Overton.
C'est quoi cet animal ?
Alors, c'est assez difficile à concevoir. Mais en politique, quand on regarde bien, il y a des idées et des concepts qui font plus ou moins peur aux people, comme taper sur des gens innocents.
Mais taper sur des gens coupables, ça, les gens adorent. Et donc, la fenêtre d'Overton, c'est le curseur des idées. Plus les idées sont au centre de la fenêtre, plus elles sont acceptées. Et les politiques et les penseurs font glisser cette fenêtre à gauche ou à droite.
Attends, donc si on vote pour taper sur des gens coupables, alors la fenêtre glisse vers la droite. Et alors, l'idée de taper sur des gens innocents devient visible, possible ?
Exactement. On tape bien sur les idées. Il y a 30 ans, ça aurait été impossible. Vous imaginez, en France, le pays de l'Europe, qui n'est plus l'Europe.
L'espace Schengen qui se refait.
Et soudain, ma mère doit refaire ses papiers un an en avance, sinon on la dubliniste.
Gnorole.
Mais c'est bizarre. Si on va trop à droite, on trouve le nazisme, et trop à gauche, le stalinisme. Les deux sont un peu pareils, non ?
Ils sont très pareils. La gauche et la droite sont en fait une sorte d'anneau.
Un anneau unique pour régner sur tous les autres.
Et en bas de l'anneau, il y a le néant. Car plus les gens sont énervés, plus la force nécessaire pour les retenir est importante. Et plus les politiques ont peur.
Ah, l'extrême des extrêmes, tout le monde se tape dessus. Et tout le monde... Pour moi, il faut...
T'es pas censé dramatiser un tic verbal, toi.
Les missions avec d'interview, création sonore, face pub,
etc.
Radio, une fois par mois.
Les missions.
La chronique de Clarisse nous emmène en voyage, des quais de la Dorade à la conquête de l'Ouest en une balade de confiné. L'autre jour, sous le soleil de la Dorade, je traînais mon soul. Le vent me souffla de nouveau Clint Eastwood. Il court vers moi. Grand, élancé, avec des mollets vraiment très fins, tout en muscles, un short rouge et t-shirt blanc avec un logo. Il a bien 70 ans. Cheveux ébouriffés, court tirant sur le gris, le visage tiré derrière ses lunettes aviateur. Tout droit sorti de Carmel by the Sea, il ne manque que la Grande Torino pour une virée dans les rues toulousaines avant de rejoindre le comté de Madison. Quel cinéma ! Je me souviens bien vite que Clint Eastwood a vaillamment soutenu Trump avant son investiture. Et je me dis « Pendez-les haut et court !» Je souris. Je l'échange pour une T-Bird 66, cheveux au vent, m'envolant direction l'océan. Je trouve ça épatant de maintenir la course à pied à cet âge. Mes genoux en miettes ne me le permettent plus. La course à pied me plonge dans une de ces périodes de flou sidéral. Retenu par cette créance de sang pour ne pas vaciller totalement. Le rythme, le temps, la distance, l'oubli. Et la surprise, en marchant l'autre jour, longeant les immeubles de la rue, mes jambes, leur envie de quelques foulées. Alors, je m'y laisse aller. Une nouvelle chance, et les pleins pouvoirs, par l'appel du moment. Dans la marche, la lassitude s'était liée à mon état d'esprit du moment. L'ennui de voir toujours la même chose, pourtant si différente chaque fois. C'est cet ennui qui m'a amené à sortir un vieux copain du placard, l'inspecteur Harry. Je l'avais rêvé, observé de longs mois avant de l'acquérir, utilisé même les quelques sous hérités de ma grand-mère. Il était là, laissé dans un coin, sortant que pour des occasions spéciales. Faire que chaque jour devienne une occasion spéciale. Alors, je le sors avec moi. J'aime les séries, j'aime fixer, regarder, observer, souligner. Je me transforme en Toulousaine sniper. Telle une cavalière solitaire, je prends le temps de sillonner, à pied, quelques quartiers de la ville, sur le qui-vive, attentive, aux surprises, les yeux grands ouverts. Et si je te recroise, je jouerai à dégainer, comme dans Le Bon, La Brute et Le Truand. Et Clint, t'es dans la boîte ? Les traits de musique sont attribués à Sous le Pont.
J'ai improvisé ce morceau de piano au tout début du confinement, quand Marine m'a passé un texte à elle, et j'ai voulu poser les paroles dessus. C'est un morceau de piano où je suis allé à l'essentiel, tout simplement. Et c'était un moment de joie et d'émotion. Voilà.
L'eau s'éloigne, divaguer clairement m'épuise. J'ai débarqué dans un élément majestueux. La terre et le ciel me traversent. Mais dans quel but? Pourquoi? Pourquoi est ce singulier bordel? Pourquoi? Pourquoi tout ça est un peu brouillon? Madame, ben là, je t'entonne, mais en un instant, toute la réalité va changer. Et là, j'y serai, un bulldozer de détermination, je serai joie. Je serai joie, paix et détermination. Qu'on se tienne sincèrement la main, de temps en temps, les gars. On s'aime comme des enfants, ne l'oubliez pas. Vibrez à tout vent quand vous aurez besoin de repos. La
La fraternité vous accueillera et elle fera de nous. Elle fera de nous tous des super-héros. L'eau s'éloigne, divaguer clairement m'épuise. J'ai débarqué dans un élément majestueux. La terre et le ciel me traversent. Mais dans quel but? Pourquoi? Pourquoi est ce singulier bordel? Pourquoi? Pourquoi tout ça est un peu brouillon? Madame, ben là, je t'entends, mais en un instant, toute la réalité va changer. Et là, j'y serai, un bulldozer de détermination, je serai joie. Je serai joie et paix. Je serai de détermination. Je serai joie et paix. Paix et détermination. Détermination. Je serai joie et paix. Je serai de détermination. Qu'on se tienne. Je serai joie la main et de temps en temps. Je salue de ta désention, je serai joie et paix. Vibrer à tout vent quand vous aurez besoin de détermination. Je serai joie, vous accueillera, paix elle fera de nous. Terre de détermination, je serai joie et paix. Terre de détermination, elle fera de nous. Je serai joie, tous. Des super héros, je serai de détermination. Elle fera que je serai joie, tous paix. Des super héros, je serai de détermination. Elle fera que je serai joie, tous paix. Des super héros, elle fera de nous tous des super héros.
Voilà l'interview de Pierre, sauf qu'il a utilisé les Pink Floyd dans son interview de Caroline. Donc au début, elle disait « Bonjour, je m'appelle Caroline, j'ai 42 ans. »
À partir du moment où toi, tu as eu les mots pour le dire,
c'est là que petit à petit, socialement, ça a changé. Mais c'est venu de moi. Quand moi, je me suis rendu compte que j'étais malade, qu'il a fallu accepter le fait d'être malade, une fois qu'on a tout ça dans la tête, on s'exclut un peu de la vie courante. Du coup, à un moment donné, il a fallu comprendre qu'il y avait un problème et qu'il faut prendre soin de soi. Et petit à petit, c'est tout un cheminement qui se fait.
Tu viens d'une famille où il y a des problèmes psy, mais...
On ne met pas de mots dessus.
On ne met pas de mots dessus. Même au jour d'aujourd'hui, on peut dire que personne dans ta famille au sens large n'a pris en compte la maladie?
Les très proches, oui. Les très proches, oui, ouais. Ils ont pris conscience. Oui, moi je travaillais sans le cacher. Horlogère.
Ah,
j'avais une boutique et du coup je recevais beaucoup de monde. Je vois que c'est toujours les mêmes choses qui ressortent. Et puis c'est facile quand... C'est pour ça que je fais le tri tout de suite, parce que les gens qui acceptent pas la maladie... Quand il y a un problème, ils mettent la maladie tout de suite. Comme si c'était la maladie qui faisait... Bah, par exemple, il y a une discussion, la personne, pour elle, elle a raison. Et pour appuyer son truc, elle va dire « Non, mais toi, t'es malade. »
Tu pourrais dire que tu souhaites vivre en le disant, toi ?
Oui.
Ouais.
Oui, moi, je veux vivre en le disant. Je veux pas vivre en le cachant. C'est trop... Ça fait trop souffrir. Je pense que si je devais le cacher, j'aurais des symptômes qui ressortiraient. J'ai passé des années à rejeter, à faire du déni, à avoir du mal à accepter. Et quand on a du mal à accepter, on souffre.
Et elle finit par, quand on accepte, au bout d'un moment, c'est le soulagement. Avec une adorable musique de fin, toute relaxante. Il a aussi dit à la fin, et alors le dire aux autres, c'est une étape supplémentaire dans le soulagement. Avec Caroline qui répond ouais.
Bonjour, je suis Alban, ex-secrétaire de Micro-Sillon. Et il faut que je vous dise un truc à vous autres auditeurs de l'émission. L'émission est censée être un podcast fait et diffusé tous les mois. C'est-à-dire pas un événement ponctuel. Nos adhérents se descarcassent tout le long de tous les mois pour enregistrer et monter des rubriques. Cela nous cause un stress remarquable. Nous vous exhorterons donc, chers auditeurs de nos radios partenaires, d'appeler ces dernières si jamais, dans un mois ou le mois dernier, vous n'aviez pas entendu notre émission.
Prévention des risques de discrimination radio.
Merci de votre compréhension et à bientôt. Bonne écoute.
De l'individuel au collectif. Par Philippe Shark.
Bonjour monsieur et madame, bonjour les auditeurs, voici l'épisode numéro 4 de l'individuel au collectif, un épisode enregistré pendant la période de confinement. Celui qui préférerait vivre à Montréal qu'à Paris. En hiver, il aime trop le grand froid, en France, la froidure le prend cruellement. Je me souviens que l'hiver 1962-63 a été particulièrement rigoureux sur la France. Puis, en 1966, une nouvelle vague de froid s'est manifestée en janvier. De ce fait, j'ai pris goût aux hivers très rigoureux et dès l'année de mes 18 ans, en 1970, j'ai pris la décision de faire ma vie au Canada. Mon père me parlait de la grande vague de froid sur la France en février 1956. Je ne pouvais plus m'y souvenir. Dès 1971, je voulais m'installer au Canada, mais vu la situation dans laquelle je me suis trouvé, il n'en était pas question. J'y passais des vacances, vu que la province du Québec soit le pays de l'hospitalité, c'est possible. En février 1974, je me suis rendu dans mon pays de prédilection pour une première fois au cœur de l'hiver. Cela m'a fait plaisir. La température de l'atmosphère est descendue à moins 32 à Alma-Lac-Saint-Jean et j'ai eu un large sourire. Le fond de l'air est sec, c'est très supportable. J'ai été hébergé chez un couple d'amis québécois et j'ai pris goût aux conditions climatiques du pays. Le fait de trop aimer le grand froid et qu'il n'y avait plus d'hiver très rigoureux en France, je suis retourné dans mon pays de prédilection en janvier 1977 et je suis allé à Yellowknife, au territoire du Nord-Ouest. Le thermomètre est descendu à moins 44 degrés Celsius et cela a été la température la plus basse que j'ai vécue. Engourdi par le froid, mais mentalement, je me suis senti mieux qu'à Paris au cœur de l'été pourri. Un jour de juillet 1980, au milieu du mois le plus chaud tenant compte des normales saisonnières, la température n'a pas excédé 15 degrés à l'heure de la plus chaude de la journée, et vu l'humidité et le fait que le climat soit océanique, j'ai eu l'impression d'avoir plus froid à Paris en été qu'à Yellowknife au cœur de l'hiver, en raison de l'amplitude annuelle est trop faible, pratiquement la même température en juillet qu'en janvier. Et cela a régénéré des allergies aux conditions climatiques La raison, c'est que je préférerais vivre à Montréal qu'à Paris. Comment peut-on aimer le très grand froid en France? Mon père m'a beaucoup parlé des hivers rigoureux de 1929, 1940, 1942, 1954, 1956 et 1963. C'est une question de vent et d'origine de master. À l'époque de l'année, la plus froide que l'on compte des normales saisonnières.
Et merci beaucoup, Philippe, pour ce témoignage à propos du grand froid, un propos qui nous donnerait presque froid, là, avec ces moins 44 degrés dont vous nous avez parlé. Voilà, donc là, on est effectivement, comme vous le disiez en début de l'épisode, confinés, mais grâce à vous, Philippe, eh bien, il faut le dire, on voyage avec vous hein, dans cette aventure québécoise. Alors moi, Philippe, j'avais une première question par rapport à votre amour du grand froid, c'est de savoir si, finalement, deux questions peut-être en même temps, savoir si vous n'aviez pas peur d'être dans ce grand froid. Parce que moi, personnellement, quand j'étais au Québec, bah, il faut le dire, j'avais peur de ce grand froid. Hein. J'avais peur, moi, quand j'y étais l'année dernière. Et du coup, ma question, c'était ça. C'était, est-ce que vous n'aviez pas peur? Parce que vous parliez, j'étais un peu engourdi, mais c'était quand même agréable. Et savoir, bah, finalement, comment vous étiez habillé, quoi. Parce que vu votre amour du grand froid, j'imagine que vous avez passé du temps dehors. Et voilà, c'est ça mes deux questions. Est-ce que vous aviez peur? Et comment vous étiez habillé?
Et savoir à quelle époque de l'année tu étais au Canada? Quel mois?
Ah, l'intervieweur se fait interviewer par l'interviewé. moi, j'y étais de août à avril. De août à avril 2018-2019. Et vous, du coup, Philippe, vous y étiez quand au Québec?
C'était au mois de janvier de l'année 2018, la dernière fois que j'ai mis les pieds. Parce qu'en tout, je suis allé 6 fois au cœur de l'hiver. Ah, c'était plusieurs mois. Le maximum, c'était un mois.
Et ça vous fait pas peur, alors, d'y être pendant l'hiver, comme ça?
Non, ça m'a pas fait peur, parce que j'étais attiré par les conditions climatiques du pays.
Alors, vous vous habillez bien. J'imagine que vous avez un matériel fait pour ce grand froid, quoi.
Oui, première fois, j'avais une doudou. Les fois suivantes, j'ai une combinaison, parce que j'ai fait un motoneige, le scooter des neiges, on appelle ça. Skido, c'est la marque. Et j'ai appris que c'était à Saint-Michel-des-Saints. Il y avait le fabricant et le commerçant de ces engins de sport mécanique. Et oui, ça s'est fait que j'étais carnaval de Québec et plus fête de la neige à Montréal.
D'accord.
Dernièrement, j'étais à Ottawa, j'ai patiné de la longue patinoire, le canal. Et puis j'ai visité le Parlement fédéral du Canada. J'ai vu entre autres la Cour suprême du pays et la Grande Bibliothèque. Et j'ai vu aussi le tribunal de grande instance d'Ottawa, tête de la municipalité.
D'accord, merci pour ce voyage à distance.
Vous mettez des beaux-arts d'Ottawa. Et aussi j'ai vu qu'il y a le centre, je veux dire, le siège social pluraliste. Mmh. C'est un organisme toute discrimination.
Et alors moi, il y a une question qui me taraude un petit peu, c'est de savoir, parce que vous parliez du coup que c'est du fait que votre père, il vous avait parlé des grands froids qu'il y a eu, donc on peut se dire qu'il y a quelque chose peut-être d'affectif dans le rapport à ce grand froid. Et est-ce que vous diriez que du coup, bah, qu'est-ce qui fait que vous aimez ce grand froid? Est-ce que c'est le plaisir, du coup, peut-être affectif, mental, que ça vous procure, de vous rappeler ces souvenirs peut-être? Ou alors une question physique? Où ça fait des grands effets physiques, hein, le grand froid. Donc ouais. Je ne sais pas si vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes attiré par ce grand froid. Est-ce que vous pourrez décrire ça? Parce que c'est intéressant, c'est assez original.
Parce que mon père était en France à l'époque de la grande vague de froid de 1940 et de 1942. Il s'en est souvenu par cœur. Il a beaucoup parlé surtout de février 1956 parce que ça a été le plus fort au de l'intensité. C'est un hiver très rigoureux. Ça a été la plus grande vague de froid sur la France depuis le début des années 1900 en matière de climatologie. Mais ça n'a pas été la plus longue. La plus longue, c'était surtout l'hiver 1962-63.
En plus de ce que vous a dit votre père, bah maintenant, quand vous êtes dans le froid, vous vous sentez bien finalement.
Oui.
Ça vous fait une sensation physique d'agréabilité, quoi.
Oui.
C'est très original.
Aborder la question. J'aime tant le froid que ça. Et j'ai appris que le froid, ça peut faire beaucoup de victimes dans des pays où on n'est pas équipé pour affronter les températures semblables.
Et oui, c'est pour ça que je posais la question de votre équipement, parce qu'à aimer tant le froid, c'est vrai que ça peut être dangereux, il faut être bien équipé, quoi.
Oui.
Et alors après, justement, une autre question. Donc, vous nous avez parlé dans vos épisodes précédents de votre vie parisienne. Vous êtes parisien. Voilà, vous avez habité pendant très longtemps à Paris. Et puis maintenant, vous êtes toulousain. Vous habitez à Toulouse. Et alors, moi, ma question, c'était quel climat vous préférez entre Paris et Toulouse ? Parce que j'imagine que vous y connaissez dans les différences climatiques plus finement que les personnes en général. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous préférez du climat entre votre ancienne habitation parisienne et votre nouvelle habitation toulousaine ?
Dans l'ensemble, je préfère le climat de Toulouse, mais cette année, c'était une exception parce qu'il y a eu des températures au cœur de l'hiver. Ça ne m'a pas beaucoup plu parce que c'était des températures plus estivales qu'hivernales. Le 24 décembre, la veille de Noël, et puis le 2 et 3 février dernier.
Ouais, sacrée précision, ouais, dans ce que vous vous rappelez. Et alors pourquoi, du coup, parce qu'effectivement, on pourrait se dire, bon, bah, Philippe, il aime énormément l'hiver, mais il préfère le climat toulousain. Est-ce que vous pouvez expliquer ?
Je trouvais qu'il y a eu des températures beaucoup plus basses à Toulouse qu'à Paris certaines années. Il y a des hivers très rigoureux. Hivers comme 1963-66, et puis des hivers comme 1985 et 2012.
Alors peut-être que c'est dû à la proximité avec les Pyrénées de la ville de Toulouse. Alors moi, ça me fait poser la question, vous qui aimez tant la neige, est-ce que des fois vous allez pour retrouver ce grand froid québécois dans les Pyrénées ?
Oui, c'est très hasardeux aussi, tant que la tour qui puisse faire, parce qu'il y a plusieurs critères qui entrent en ligne de compte. C'est principalement question de vent et d'origine de master.
Ouais, c'est pas forcément la proximité avec les Pyrénées, d'accord. Et mais vous, en tout cas, est-ce que vous y allez aux Pyrénées de temps en temps ?
J'y suis déjà allé, mais pas très souvent.
D'accord.
Je suis allé une fois à la Principauté d'Andorre, c'était en 2013, avec un ami qui habite Sarcelles, dans le nord de Paris. Et par la suite, je suis allé avec un ami qui habite le département de l'Ariège, la commune de Carlavelle, qui n'est pas très loin de Montreuil-Montcage, département de la Haute-Garonne. On a fait une randonnée par là-bas en 2011. On a vraiment permettre. C'est surtout dans les Alpes qu'on allait le plus. Principalement Val d'Oise, la station la plus élevée en altitude, la plus froide dans l'hiver. La plus basse que j'ai connue en France, c'était côté de Tigre-Val-Clarette, et en haut des pistes. Dans la station, c'était du moins 14. Dans le haut des pistes, ça devrait être du moins 26.
D'accord. Ah, ça égale pas le climat québécois quand même, hein. Et alors, justement, est-ce que vous avez envie de retourner au Québec ?
Pour l'instant, c'est pas prévu. J'ai monté que deux projets de voyage, mais ça serait des destinations beaucoup plus lointaines. D'abord, mettre les pieds sur le cinquième continent, l'Océanie. Et puis, voir les villes de Sydney, Melbourne et Brisbane. Éventuellement, Canberra. Voir ce que c'est le nom de Canberra.
Ouais.
La langue officielle, c'est l'anglais.
Et une autre destination, en plus de l'Océanie ?
Ça aurait été la péninsule Antarctique.
Ah, forcément. Pour le froid encore.
Oui.
Ouais. Ok, super. Bon, bah, ça nous donne vraiment envie de voyager. Bah, moi, je vous remercie, Philippe, pour ce partage d'amour du grand froid. Moi, je trouve ça très original, parce que d'habitude, les personnes préfèrent le chaud, mais là, c'est amoureux du froid. Et puis, on voit à la fin de cet épisode que vous avez, que vous poursuivez des rêves de voyage, de grands voyages. C'est super chouette.
Je vous remercie à vous tous d'avoir suivi ce dialogue.
Bonjour, donc me voici avec à la suite du spectacle de l'église de la Très Sainte Consommation, Travail, Obéi, Consomme, avec une spectatrice qui voulait dire un petit mot donc, et avoir le témoignage de ce spectacle.
Le spectacle m'a beaucoup plu, je ne connaissais pas du tout les deux personnes qui jouaient sur scène. Et j'aime beaucoup ce type d'humour qui est un peu cynique, et ça m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup ri.
Tu connaissais déjà le festival ou le spectacle ?
Je connaissais le festival, mais je ne connaissais pas du tout le spectacle. Et du coup, j'ai eu la chance de rencontrer les deux acteurs qui viennent de Lille. Et forcément, non, je ne les connaissais pas, étant toulousaine.
D'accord. Tu n'avais pas eu l'occasion d'entendre Croissance, enfin de les voir en parade il y a quelques années au Groland ?
Non, pas du tout, puisque je connaissais le festival de nom, mais c'est vrai que je n'y ai pas spécialement beaucoup assisté.
D'accord.
Je ne suis pas une grande cinéphile.
Ok. T'es plus concert peut-être.
Un peu, oui.
Mais si tu peux te présenter vite fait pour les auditeurs. Juste le prénom, voilà.
Eh bien, je m'appelle Dolores et j'habite à Toulouse.
D'accord. Voilà. Étudiante peut-être ?
Non.
Non.
Je suis enseignante.
Déjà enseignante, si jeune.
Eh bien, bah, tu sais pas quel âge j'ai.
Non, mais tu fais jeune en tout
et
cas.
Eh bien, tu me donnes quel âge?
Je te donne 20 et quelques. Ouais, 20 ans.
Bah, tu peux rajouter 10.
Tant que ça?
Ouais.
Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est trop bien. Bon, et merci.
Avec plaisir.
Et bonne continuation.
Merci.
Je respirais l'air du mois de mai dans mon potager, parfumé et épais, la gracile plante éphémère et fleurie. Microsillon.fr.
Qu'importe si je me sens digne en étant un homme ou pas, je me sens digne en vous ayant écrit Néophilomoé. Épisode Zobuzo, le sexe profané. À l'épisode précédent, j'ai dénoncé à quel point l'exploitation de la femme était huilée par des mécanismes sociaux inévitables et la philosophie Moé clama haut et fort le glas de la phallocratie, car j'aime aimer les femmes modestement vêtues, réveillées et lucides, en pleine possession de leurs moyens et en pleine capacité de m'empêcher d'abuser d'elles. À la limite, j'apprécierais même leur domination. Tant que ça me permettra de profiter de leurs regards et sourires coquins, irrésistibles et sincères. On ne peut jamais s'être trompé quand on fait sourire les dames de leur plein cœur, même si ces dernières vous avaient prévu de vous jouer un sale tour au départ, car on peut jouer un sale tour à quelqu'un que l'on aime. Happy, happy girl! Dans énormément d'œuvres Moé, les personnages principaux sont soit un groupe de filles, soit un garçon au milieu d'un groupe, on parle même souvent d'un harem, de filles qu'il aime. Ça signifie plus ou moins le sentiment que presque tous les hommes ont. Les gens de sexe féminin nous rendent heureux au point de délirium, donc on ne peut imaginer notre bonheur presque qu'en imaginant une multitude de demoiselles, et ce serait donc totalement naturel que, outre notre petites envies, outre notre préférence, outre notre libido, nous rendions ces dernières ce bonheur, et ce bonheur si grand, si délicieux, que ce serait à peine suffisant d'essayer de toutes les manières imaginables par notre misérable inspiration. On commencera cet épisode après le 15e Vlad le Barbare.
Oh, oh, prends ça, nouvel épisode de Vlad le Barbare. Vlad le Barbare.
Épisode 15, premier donjon. Après une rencontre aléatoire, Vlad papote avec Hannah.
T'as bien réussi à nous suivre. L'épisode avec Sarah et le crash était un peu dur à suivre.
Il en fallait bien plus.
Enchanté. Dis, au fait, comment est-ce que l'ombre a fait pour t'avoir? Tu lévites dans les airs et elle pas, non?
Eh bien, ma surprise... Hein, hein, hein,
L'ombre surgit alors de derrière et saisit Hannah par sa poitrine.
Il faut dire, pour un fantôme, tu es exceptionnellement bien roulé.
et tu as un magnifique sourire et des cheveux de rêve. Tu es littéralement ce peu.
Pourquoi est-ce que je vois
ce peu.
Dans ta tête.
Ce peu. Ce peu. Ce peu. Ce peu. Ce peu. Ce peu. À ce moment, sa poitrine explose en projectile magique alors qu'elle lâche son dernier.
Je pensais pas qu'une ombre serait si perverse. Vaincre en pelotant, pauvre choupi.
Pardon de ma faiblesse, mais pour l'instant, j'ai pas d'armes que je puisse lui servir pour un rêve.
Vu que t'as pas d'inventaire pour le moment, c'est vrai. Très gênant.
3 km dans la jungle, Vlad trouve une ancienne ruine d'où viennent les nombreuses traces de pas ayant battu la terre. Le lieu s'appelle Donjon de Kazaïtus.
Ah ah, j'ai trouvé la ruine du nécromant. C'est bien qu'il soit dans une ruine. Plus de XP et surtout plus de loot. On est complètement déjà argenté et si on veut revenir à Charm, ce sera avec les poches remplies d'objets magiques. Une fois tout le donjon nettoyé, on ira déposer toutes les armes et armures devant l'entrée et Mentai nous fera une jolie détection de la magie pour qu'on prenne toute valeur.
Ça ou alors on va mourir comme des idiots. J'espère que le donjon n'est pas out of depth.
Les aventuriers entrent dans un souterrain effectivement en ruine. Et sombre.
Outoué, Mentai, quand vous me direz torche, j'allumerai une torche et ça a intérêt à en valoir le coup. Je veux pas mourir dans le noir.
J'ai aussi une lumière dans le centre.
Bien, tu allumeras alors tes lumières alors que je sortirai mon épée. Moi, je vais chercher les pièges. Dans le noir. Heureusement que ça ne donne pas de malus d'y aller à la main et au bâton de marche trouver je ne sais où.
Il faudra aller à gauche quand il faudra. Nous, les câlins, on voit dans le noir, mais pas loin du tout.
Ok.
Les aventuriers arrivent à A. Vous arrivez à un embranchement et il y a de la paille pourrie sur le sol. Il continue jusqu'à la salle 7. Vous arrivez devant une herse en bois.
Va nous falloir une hache. Mon cimetière n'est pas fait pour couper des épaisseurs comme ça.
Les aventuriers retroussent donc chemin, repassant devant la paille et arrivent à la salle 9. Vous arrivez devant une porte en bois. Il y a un bruit de respiration rauque derrière. Perception auditive.
Une partie du problème de la machine phallocratique est également due à l'absence de sacré. Après tout, nulle religion ne pénètre dans l'intimité si elle ne codifie pas totalement le comportement de la personne en question, et le sacré est une des rares forces qui ralentit l'intelligence de l'homme, entre parenthèses, et de la femme. On peut le voir partout dans les films, dans les chansons et dans les bouches des gens, les mots utilisés par la majorité pour parler de sexe sont pour beaucoup des mots d'argot rentrés dans la langue vernaculaire. Par exemple, baiser signifiait autrefois baiser la main dans un contexte d'amour courtois, et a été repris pour signifier l'acte sexuel. Le verbe péjoratif forniquer a été réduit et avili en niquer, comme si les trois lettres de plus inspiraient une peur ou un embarrassement. En anglais, le mot fuck et son adverbe en ing est devenu un expletif pour tout et n'importe quoi. Le sexe lui-même est devenu plus sale qu'il ne l'est déjà, et on parle davantage des méfaits du sexe et de la honte que procure cet acte que de ses bienfaits. Malgré cela, le système renforce la dissymétrie des corps, principalement par l'habillement. Comparez un pull pour homme et un pull pour femme. Le pull pour femme est presque tout le temps 3 fois moins épais que le pull pour homme. Pour le pull pour homme, la raison de le porter est de se protéger du froid. Mais pour le pull pour femme, c'est davantage l'esthétisme qui compte. La protection passant derrière le entre guillemets, désir de porter un vêtement moulant accentuant les formes et courbes. De nombreuses femmes se plaignent que leurs t-shirts et débardeurs sont trop fins et laissent voir en transparence leur soutien-gorge qui eux-mêmes laissent voir leurs seins et sont obligées pour s'habiller décemment de porter 2 voire 3 couches de plus. Même chose pour les chaussures pour femmes. Les chaussures pour hommes sont faites pour courir, les chaussures pour femmes pour marcher. Ce qui, étant donné qu'il est beaucoup plus facile de déchirer un vêtement pour femme qu'un vêtement pour homme, montre que la mode féminine en général est faite pour affaiblir la capacité de la femme à résister à un assaut sexuel. Même jusqu'au sous-vêtement le plus intime, le slip pour enfant évolue en caleçon pour homme et culotte courte ou string pour femme. Le caleçon est moulant et permet à un pervers de pénétrer, alors que la culotte courte et surtout le string ne protègent pratiquement pas sa victime. Non seulement ça, mais la mode féminine est sans cesse, surtout chez les jeunes, garnie de symboles et de tendances sexualisantes, telles que la culotte rehaussée, ou est-ce le jean rabaissé, le t-shirt débardeur court laissant passer le ventre, voire même plus rarement, les sous-vêtements portés sur les vêtements, ou les entre guillemets hauts, qui sont de simples soutiens-gorge glorifiés. Ce qui est grave pour celles qui portent ces vêtements, c'est qu'une majorité de ces jeunes demoiselles ignorent complètement à quel point leur parure est indécente et affriolante, car elles ne la portent que pour, entre guillemets, suivre leurs, entre guillemets, amis les plus désurés. Et ce problème se manifeste à des âges de plus en plus précoces. J'ai vu des filles de 10 ans se parer de manière hyper sexualisante à l'école, et ça m'a plus choqué qu'autre chose. Il faut donc faire un minimum attention à la mode et s'en méfier de temps à autre, et surtout se regarder de temps à autre dans le miroir pour voir la différence entre à quel point on peut être sexualisante et à quel point on l'est. Au prochain épisode, je vous parlerai de l'état actuel de la masculinité, finissant de ce fait le chapitre.
L'émission est terminée. Au revoir, on se retrouve.
Rendez-vous le mois prochain.
Chrono.